La caméra, c'est pas une certitude, c'est un doute.
Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire.
Non, j'écris.
Encore une laisse?
Eh non, c'est un collier, chérie.
C'est beaucoup trop luxueux pour un chien.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay. And I pity any girl who's in me today.
On m'appelle Garance.
Garance, oh c'est joli.
C'est le nom d'une fleur.
Vous allez lui dire que pour satisfaire une fantaisie que vous avez, vous aimeriez avoir, je ne sais pas, je dis ce qui me passe par la tête, une robe couleur du temps.
Couleur du temps?
C'est horriblement compliqué.
Bonjour, Garance Ayat au micro. Je suis contente d'être avec vous encore et ce sera aujourd'hui c'est l'avant-dernière émission de la saison. Voilà, il y a encore cette semaine et la semaine prochaine et après on prend un peu de vacances. En attendant, on va parler bien sûr de cinéma et de tous les films que vous pourrez aller découvrir dès à présent en salle.
Je pars, quoi mon talent, mon écorce, quoi mes forces, le chagrin a pris sa route. Moi je doute.
Mon chez-moi est ailleurs, mon chez-moi est si loin. En attendant, je passe. En attendant, je passe. En attendant, je passe.
La nuit venue de Frédéric Farrucci avec entre autres Camélia Jordana. Ce film a été projeté lors du Festival des Champs-Élysées. On est à Paris en 2018. Ying, un jeune émigré sans papier et chauffeur de VTC, soumis à la mafia chinoise depuis son arrivée en France il y a 5 ans. Cet ancien DJ, passionné d'électro, est sur le point de solder sa dette en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d'une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, interprétée par Camélia Jordana, monte à bord de sa berline. Intriguée par Jean et entêtée par sa musique, elle lui propose d'être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leur course dans Paris, une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jean à enfreindre les règles du milieu. Plus qu'une chronique sentimentale, ce film est surtout le récit d'une époque, d'un lieu où les migrants, les receleurs, les mafieux et les marchands de sommeil se croisent, se côtoient, les uns profitant de la détresse des autres. Constat terrible d'un esclavagisme moderne. La nuit venue incarne l'échec de nos modèles sociétaux, où l'individualisme règne et où l'humain ne cesse de disparaître sur l'autel des considérations économiques. Dans cette réalité, Jean en a conscience. Mais il est bien trop occupé à essayer de survivre, à défaut de pouvoir vivre, à éviter le danger qui rôde, la mort qui guette à chaque intersection. On aimerait creuser plus en profondeur sur son lien avec la mafia chinoise, son arrivée en France et sa mystérieuse dette impayée. Tout comme le personnage de Naomi, on s'attache, mais de manière vraiment insuffisante. Et ça, c'est très très dommage, parce que du coup, on n'arrive pas complètement à accrocher à leur histoire commune. La nuit venue a été tournée en plein Paris, et surtout en pleine nuit, ça donne, c'est vrai, un côté magique et mystérieux à la capitale, mais ça ne suffit pas pour que ce soit homogène. Et puis la fin du film est brutale, bien sûr, je ne vais pas vous la raconter. Elle arrive vite et puis elle ne nous laisse pas le temps ni de nous réjouir, ni d'être surpris, si ce n'est par cette brutalité. Et on a l'impression, étrangement, d'avoir loupé des scènes ou qu'il y a eu des coupes un peu malencontreuses, et c'est vraiment dommage. Parce que les choses arrivent un peu comme un cheveu sur la soupe et du coup nous laissent aussi sur notre faim. Ça aurait été bien, par exemple, quelques scènes supplémentaires, simplement pour qu'il y ait un peu de liant, un peu plus de chair dans cette histoire qui vraiment le méritait. La nuit venue, donc, de Frédéric Farrucci est en salle. De Christian Alvart. On est dans une région reculée de l'Allemagne, tout juste réunifiée. Deux inspecteurs enquêtent sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L'un des méthodes modernes d'investigation, tandis que l'autre n'hésite pas à user de pratiques moins orthodoxes, disons. Leur recherche les met sur la piste d'une affaire de bien plus grande envergure. Au cœur d'un climat post-RDA sous tension, ils vont devoir mettre de côté leurs divergences pour faire avancer l'enquête. Le réalisateur est parti d'une œuvre déjà existante. Il s'agit de La Isla Minima, un thriller post-franquiste espagnol qui est sorti en 2015. Alors moi, j'avais pas vu cette version-là. Du coup, je suis arrivée devant Land of Murders sans aucun a priori. Même si j'ai une impression déjà vu, à cause du traitement du film, à cause de son sujet. Toutefois, ce film policier tient vraiment la route grâce à son ambiance oppressante, cette ambiance de fin de règne est-allemand. Mais c'est intéressant parce que par rapport au film précédent, espagnol, que je n'ai pas vu donc, où en fait c'était l'ère post-franquiste en Espagne qui là est troquée par des terres pas si fleuries à l'est et que tout le monde veut fuir, et cet élan est infecté par un marasme criminel diffus, et les deux commissaires plutôt mal assortis, venus de l'extérieur, vont se retrouver face à un mur de silence. Moi, ce qui m'a beaucoup déçu dans ce film, c'est que ni l'un ni l'autre des comédiens ne réussissent à s'imposer réellement, je trouve, dans ces rôles, qui sont très stéréotypés, même si leur présence apporte du poids aux personnages féminins qui sont tous un peu creux, malgré l'effort d'ailleurs de la mère, interprétée par la super Nora Wallstetten, la mère des victimes, qui mène un double jeu. Voilà, c'est pas suffisant pour nous tenir en haleine. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le travail visuel, parce qu'il y a vraiment des plans absolument sublimes. Alors, des plans en drone, mais il y a un côté graphique qui est vraiment très beau. Et puis, quand on voit ce film, à la fin, on se dit que l'Allemagne n'en finit pas de panser ses plaies et que le contexte social ici se prête vraiment parfaitement au règlement de compte, que ce soit par le mutisme des habitants, par la dualité des hommes, des deux inspecteurs, donc on peut dire les deux Allemagnes, quoi. Et j'ai trouvé aussi intéressant que ce soit un film d'action où finalement, l'action n'est pas le principal souci du réalisateur. C'est assez troublant d'ailleurs de voir ça au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. Et puis il y a cette Allemagne de fin de règne qui est bien exposée. Après, c'est assez décevant parce qu'on a une fin de film qui tombe complètement à plat. Et au bout du compte, on se dit « quel dommage ». Lands of Murders de Christian Ehlwart sera en salle à partir de mercredi. Abbas Kiarostami est sûrement un des cinéastes iraniens les plus connus et les plus talentueux. Décédé en 2016, il a réalisé 46 films, parmi lesquels Le goût de la cerise, palme d'or décernée par Isabelle Adjani en 1997 au Festival de Cannes. Il a aussi réalisé Et la vie continue, qui a été primé en 92 dans la sélection cannoise Un certain regard. Il a obtenu un Lion d'argent avec Le vent l'emportera en 99. La majorité de ses films sort en DVD. Et le Centre Pompidou, qui devait lui rendre un hommage en avril dernier, le fera en avril prochain, en 2021. La France aime le cinéma d'Abbas Kiarostami, qui aurait eu 80 ans en juin dernier. Il est le premier réalisateur iranien dont les films ont été diffusés en France après la révolution iranienne en 1979. Avec lui a disparu une des figures majeures du cinéma contemporain. Abbas Kiarostami avait commencé sa carrière dans le cadre, on l'imagine très surveillé, du cinéma éducatif pour enfants. Ensuite, il a bifurqué subtilement et puis détourné la commande idéologique pour raconter les drames minuscules de vie anonyme. Deux mots absolument essentiels dans sa filmographie, drame et anonyme. Où est la maison de mon ami en 1987, par exemple. C'est l'histoire simple et épique néanmoins d'un garçonnet qui a chippé le cahier de son ami et qui cherche de village en village à le lui rendre, faute de quoi il pourrait se faire renvoyer de l'école. C'est un film remarquable qui tend vers le conte et condense l'esprit du cinéma de Kiarostami. L'enfance comme motif central, la fraîcheur revigorante du regard porté sur le monde, le dépouillement de l'argument allant de pair avec la complexité de la structure narrative. Dans les films de Kiarostami, on déambule souvent dans un pays en ruine à bord d'un véhicule et on cherche souvent des raisons de continuer ou alors de tout arrêter. Kiarostami filmait la campagne de son pays peuplée d'oliviers, arbres de paix, qui restent debout, malgré les tremblements de terre, comme on le voit dans la vie continue. Épris de vérité, au point que ses films apparaissent comme des documentaires fiction, Kiarostami n'a choisi pourtant pas celle qui dérange. Il y a plusieurs dimensions dans la vérité, disait-il. Tous les mensonges ont aussi une part de vérité. Ils sont des variations différentes de celle-ci. Ces films donc sortent en DVD, en Blu-ray, et je vous assure que ce sont tous des pépites à découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Ils permettent de comprendre la vie et ce qu'on peut en faire avec la fiction. Je vous le disais, le Centre Pompidou devait lui rendre hommage en avril, avec une rétrospective. Celle-ci donc est reportée à avril 2021 en raison du Covid. Mais vous pourrez vous procurer donc ces films en DVD et revoir par exemple aussi Copie conforme, qui avait valu à Juliette Binoche le prix d'interprétation au Festival de Cannes 2010, présidé alors par Tim Burton. Comme quoi, le cinéma d'Abbas Kiarostami savait réunir le monde. L'émission est terminée, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, vivement dimanche.